Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, mais nous allons considérer le psaume 46 ce matin. Alors, on l'a déjà étudié à Châlons, il y a quelque temps, mais c'était en été. Donc, il me semble que ce n'avait pas été enregistré, mais c'est un psaume qui va bien avec les psaumes qu'on a déjà vus, surtout les psaumes 47 et 48. Psaume 46, donc voici la parole de Dieu. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et c'est la parole de Dieu. Le psaume 46, donc, est un psaume qui est très connu. Il a inspiré de nombreux croyants dans les temps de difficulté, les temps de détresse, les temps de danger. On connaît ce psaume parfois comme le psaume de Luther. Ce n'est pas Luther qui a écrit le psaume, bien entendu, mais Martin Luther, le réformateur allemand, s'est inspiré de ce psaume pour écrire un cantique bien connu. Martin Luther a passé une grande partie de sa vie à faire face au danger constant à cause de l'Évangile et de l'opposition. Il se tournait constamment vers ce psaume quand il était particulièrement découragé. Dans son commentaire sur les psaumes, Charles Spurgeon fait d'abord son propre commentaire et ensuite il cite d'autres commentateurs qui viennent apporter un éclairage nouveau ou complémentaire. Et il cite notamment Martin Luther. Et Martin Luther dit au sujet de ce psaume, nous chantons ce psaume à la louange de Dieu parce que Dieu est avec nous. Il préserve et défend puissamment et miraculeusement son Église et sa parole contre tous les esprits fanatiques, contre les portes de l'enfer, contre la haine implacable du diable et contre tous les assauts du monde, de la chair et du péché. Et Charles Spurgeon va citer un autre commentateur qui écrivait au sujet des auteurs et des cantiques qu'ils avaient écrits à partir des psaumes. Et il dit ceci au sujet de Martin Luther. Luther et ses compagnons, bien qu'ils étaient prêts à faire face au danger et à la mort à cause de la vérité, ont eu des moments où leurs sentiments s'apparentaient à ceux du psalmiste lorsqu'il disait « Pourquoi t'as-tu mon âme ?» Mais dans ces moments-là, le réformateur disait à son ami Philippe Melanchthon, allons Philippe, chantons le psaume 46. Et il pouvait le chanter dans la propre version de Luther. C'est un rempart que notre Dieu. En ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresses. Et un peu plus loin, quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Et encore aujourd'hui, les croyants continuent à se tourner vers ce psaume 46 en temps de peur, de crainte, de danger. Ce psaume nous montre toute la différence que Dieu fait au milieu de la difficulté et tout simplement au milieu de ce monde. Ce psaume se divise de manière naturelle en trois parties, trois strophes qui se terminent chacune avec ce mot « pause », donc cet interlude musical. Et chaque strophe nous dirige à nous confier toujours plus dans l'Éternel. Donc, premier grand point, la grande force de l'Église. Et le psaume 46 commence par nous assurer que Dieu lui-même est la force de son peuple. Verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et les versets suivants vont énumérer les grands cataclysmes qui menacent de tout détruire. La terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur des mers. Les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Versets 3 et 4. Mais avec Dieu comme refuge, le psalmiste écrit, nous sommes sans crainte. Et c'est une description qui est très réelle. Elle reconnaît que nous sommes faibles, que nous sommes vulnérables devant un grand nombre de dangers. Le psalmiste parle de ces bouleversements dans la nature pour décrire tout le chaos qui existe dans le monde, toutes les crises qui peuvent nous toucher à la fois individuellement, mais aussi au niveau de la nation et au niveau de l'Église. Ce psaume décrit la réalité de ce monde dans lequel nous vivons. Et si nous pensons que nous pouvons vivre dans ce monde en comptant seulement sur nos propres forces, alors nous n'avons rien appris de l'histoire. Et malgré tous ces bouleversements, il y a un fait majeur qui fait toute la différence. Dieu est pour nous notre refuge. Dieu protège, Dieu garde son peuple, il garde ses enfants. Dans les temps anciens, on construisait des fortifications, des châteaux forts. Le nom l'indique d'ailleurs, quelque chose de très protégé. Les remparts étaient très épais, les murs étaient très larges. Les habitants avaient le sentiment d'être en sécurité, qu'ils ne pouvaient pas être atteints par l'ennemi. Et le simple fait de vivre à côté d'un tel château fort apportait ce sentiment de sécurité. On savait qu'en cas de malheur, il suffisait d'aller vers ce château et de trouver le refuge derrière les remparts, les murailles solides. Et c'est la même image. Dieu protège, il est ce rempart pour son peuple. Et le simple fait de lire ces lignes nous apporte un sentiment de paix, un sentiment de calme, parce que cela nous dit que Dieu est notre refuge, il est notre rempart, il est notre appui, il est celui qui est là, qui est solide, derrière lequel nous avons cette sécurité. Et beaucoup de croyants peuvent témoigner de cette réalité. Quand la tragédie nous touche, Dieu est réellement un refuge, un appui au temps de la détresse. Et là, je citerai juste un exemple. Vous avez peut-être entendu parler d'Elizabeth Elliot. Son premier mari, Jim Elliot, a été tué le 8 janvier 1956 par les Indiens Oka, qu'on appelle aujourd'hui les Waorani. C'était sur les rives du fleuve Curare en Équateur, entre la Colombie et le Pérou. Il a été tué, lui et d'autres hommes qui l'accompagnaient, alors qu'il tentait d'annoncer l'évangile à cette tribu. Elle a perdu son mari après quelques années seulement de mariage. Elle s'est remariée, son deuxième mari est mort dans de terribles souffrances. Et Elizabeth Elliot parle de cela en s'appuyant sur ce psaume 46. Elle dit « Tout ce qui semblait solide » est parti. Les montagnes tombent, la terre s'écroule. Dans de tels moments, c'est un très grand réconfort que de savoir que même si ces choses sont ébranlées, une chose ne l'est pas. Dieu n'est pas ébranlé. Et on doit se poser la question, où est-ce que les églises peuvent espérer trouver leur force, leur sécurité? Beaucoup d'églises cherchent leur sécurité en accumulant de l'argent sur leur compte en banque ou dans leur coffre. Bien entendu, nous devons aider, participer comme nous le pouvons aux efforts de l'Église sur le plan matériel, mais l'argent n'est pas la source de notre force. D'autres font appel à des personnes très qualifiées qui maîtrisent les dernières technologies. Et l'Église pense que cela va assurer leur sécurité, qu'elles seront fortes. C'est ce que Israël a pensé, par exemple, quand ils ont oint Saül comme roi. Il était le plus grand, le plus impressionnant que tous les autres. Mais Saül n'était pas un homme de Dieu. Et plus tard, la nation en a subi les conséquences. D'autres se confient dans leurs associations. Ils cherchent la bonne dénomination, le meilleur règlement intérieur, les meilleurs membres, les meilleurs prédicateurs. Mais même cela n'assure pas la sécurité. Le psaume 46 nous rappelle qu'aucune de ces choses ne peut nous protéger, ne peut nous rendre forts. Seul Dieu est notre refuge. Seul Dieu est notre secours. Seul Dieu est notre rempart, notre force. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cela nous amène au deuxième point. Si la première strophe identifie Dieu comme étant notre refuge et notre force, la deuxième strophe parle de Dieu qui défend sa ville, qui défend sa cité. Le verset 7, « Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent ». Beaucoup de commentateurs pensent que ce psaume fait référence à l'invasion par l'armée assyrienne dirigée par Sanchérib durant le règne du roi Ézéchias. On lit cela en 2 Rois, chapitres 18 et 19, et puis aussi dans les chapitres 36 et 37 d'Ésaïe. Sanchérib était à la tête d'une vaste armée qui a écrasé la région pour venir jusqu'au pied des remparts de Jérusalem. Et les envoyés de Sanchérib ont proposé aux habitants de Jérusalem de se rendre, et leur proposition était pleine de moqueries. Et sur les conseils du prophète Ésaïe, Ézéchias est allé se présenter et présenter son cas devant l'Éternel dans le temple. Et en réponse à sa prière, Dieu a détruit l'armée assyrienne en une seule nuit. En Ésaïe 37, verset 36, nous lisons « L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. » Sanchérib est retourné à Ninive en disgrâce et rapidement il a été assassiné par ses propres fils. Voilà comment c'est facile pour Dieu de détruire les ennemis de son peuple, de délivrer son peuple. Comme le dit le psalmiste ici, au verset 7, « Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante à la simple voix de Dieu. » Et cela souligne donc le deuxième point de ce psaume. Le grand besoin du peuple de Dieu, c'est que Dieu habite au milieu de lui. Le verset 6 nous explique pourquoi Jérusalem n'est pas tombée. « Dieu est au milieu d'elle. » Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Oui, les croyants vont passer par des moments difficiles, par des moments sombres, mais la lumière brillera le matin si Dieu est au milieu de son peuple. Jérusalem n'était pas spéciale à cause de ses bâtiments, à cause de sa culture ou à cause de son héritage, même si certaines de ces choses sont très belles. Mais Jérusalem était spéciale à cause de la présence de Dieu dans le temple. Cette présence était visualisée quand la nuée de gloire a rempli le temple de Salomon sur la montagne de Sion, dans 1 Roi chapitre 8. Dieu habitait au milieu de son peuple. Et ça, c'était la gloire de Jérusalem. Et on connaît l'histoire. Au fil des années, le peuple s'est tourné vers les idoles. Le peuple s'est détourné de Dieu et malgré tous les avertissements que Dieu a donnés, il est arrivé le moment où Dieu s'est retiré. Ézéchiel nous raconte qu'il a vu l'Esprit de Dieu s'élever et quitter le temple. Ézéchiel chapitre 10, versets 18 et 19. Et ce mot terrible, Ichabod, est maintenant écrit. La gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël. Et peu de temps après, les Babyloniens qui sont revenus vers Jérusalem et ils ont été capables de détruire la ville qui avait résisté pendant si longtemps. Quand Dieu est au milieu de la cité, comme au jour du psalmiste, Jérusalem était forte. Jérusalem tenait ferme. Mais quand la gloire de Dieu est partie, Jérusalem est tombée très rapidement. Et c'est un avertissement. C'est un avertissement pour l'Église aujourd'hui. Beaucoup d'assemblées se sont détournées du vrai Dieu pour servir des idoles que le monde approuve. Parfois, on pense que l'on peut se donner sur le plan individuel, que l'on peut se donner à une vie de péché, qu'on passera un bon moment. Mais ça ne marche jamais ainsi. La chose la plus importante pour la vitalité, à la fois la vitalité du croyant, mais aussi la vitalité de l'Église, c'est que Dieu habite au milieu de son peuple. Et le verset 5 fait une déclaration extraordinaire au sujet des bénédictions dans la vie qui découlent de la présence de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. L'Église dans laquelle Dieu habite est rendue sainte par la présence de Dieu. Elle est appelée à une sainteté digne de Dieu. Elle est transformée par la présence de Dieu. Cette présence du Dieu Saint est comme un fleuve d'eau rafraîchissante qui coule au milieu de la cité. C'est intéressant de noter ceci. De toutes les villes, les grandes villes de l'époque, Jérusalem était connue pour ne pas avoir été construite près d'un courant d'eau. Il n'y avait pas de rivière à Jérusalem. Il n'y a pas de rivière qui traversait la ville. Et le psalmiste veut que les lecteurs réalisent cette ironie pour que nos regards soient dirigés vers un autre genre de cours d'eau. Et de voir Jérusalem comme une image de l'Église. Et le psaume 46 fait référence à un cours d'eau spirituel, un fleuve qui vient réjouir le peuple de Dieu, la cité de Dieu. Le psalmiste ne parle pas donc de la topographie, de la géographie de la Jérusalem terrestre, mais de la présence de Dieu au milieu de l'Église, tout au long de l'histoire. C'est la cité de Dieu qui se réjouit dans la vie que Dieu donne. Et malgré ses difficultés, malgré ses dangers, malgré notre folie, notre faiblesse, bien que nous nous trouvions dans le terrain le plus aride, et même si, comme Luther le dit dans son cantique, tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, il y a toujours un fleuve dont les courants réjouissent le peuple de Dieu, la cité de Dieu. Et on trouve l'image du fleuve tout au long de la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il arrosait toute la terre. » À la fin, nous avons lu en Apocalypse 22, tout à l'heure, verset 1, « Et l'ange qui explique à Jean me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau et qui coule au milieu de la ville. » C'est un fleuve spirituel. Un fleuve, c'est le fleuve qui coule du rocher que Moïse a frappé dans le livre de l'Exode. C'est le fleuve qui est sorti du corps du Seigneur Jésus quand il a été frappé sur la croix. Et la dernière invitation du Seigneur Jésus se trouve en Apocalypse 22, verset 17. Et il parle de ce fleuve, que celui qui a soif vienne. Que celui qui peut prenne l'eau de la vie gratuitement. Et ce fleuve, c'est cette grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. dans l'évangile, dans cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu, cet évangile qui traverse toute la parole de Dieu, comme le fleuve. On voit les promesses dans le jardin d'Éden. On le voit les promesses dans les générations suivantes. Le fleuve devient plus profond ensuite avec les cérémonies, la loi qui pointe vers Christ, les prédictions des prophètes qui annoncent la venue du Messie. Le fleuve grandit encore avec la venue du Seigneur Jésus-Christ quand tous les événements qui étaient annoncés se sont déroulés. Et puis il y a l'inondation quand l'évangile est annoncé au monde entier. On voit ce fleuve dans toute l'histoire. Il rafraîchit, il éclaire, il lave les pécheurs par la grâce d'un Dieu qui est plein d'amour. Et c'est ce fleuve qui remplit de joie la cité de Dieu, le peuple de Dieu, par lequel Dieu habite au milieu de son peuple quand sa parole est annoncée, quand sa parole est reçue, quand les croyants s'appuient sur cette parole et y trouvent leur force et leur bénédiction. L'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est ce fleuve par lequel l'Esprit Saint vient, qu'il donne au peuple de Dieu la vie éternelle et toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et c'est la main du Seigneur Jésus-Christ qui dirige le cours de ce fleuve dans l'histoire. C'est par la foi en Christ que les eaux de ce fleuve coulent en nous. Le psalmiste dit au verset 8, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Dieu règne dans son Église quand le Seigneur Jésus est prêché et quand cette alliance est annoncée et quand sa grâce est proclamée à tous les pécheurs. Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Quand les disciples étaient avec lui dans la barque, les disciples n'étaient pas terrassés par la tempête, même si la tempête faisait rage. De même, quand le Seigneur est au milieu de son Église, en tant que Seigneur et Sauveur de son peuple, nous n'avons rien à craindre. Même si les moments que nous pouvons connaître sont difficiles, le cœur dans lequel habite le Seigneur Jésus-Christ est un cœur qui profite de la justice, de la paix, de la joie qu'apporte la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Quel encouragement pour son peuple. Notre grand besoin est que le Seigneur habite au milieu de nous. Bien sûr, nous avons d'autres besoins, mais c'est notre plus grand besoin. Et Dieu habite au milieu de son peuple quand nous entendons, quand nous croyons, quand nous dépendons de cet évangile et que sa grâce coule comme les eaux d'un grand fleuve spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'Évangile est la provision de Dieu pour tous les besoins que nous pourrions avoir dans l'Église. Nous avons vu, quand nous avons étudié Romains chapitre 1, que Paul déclare l'Évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance, la dynamite de Dieu. En Apocalypse 20, nous avons lu au verset 2, « Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » L'Évangile provoque la croissance des bonnes choses dans les endroits où il passe. Et à travers l'Évangile, l'Esprit Saint vient, il porte son fruit dans nos vies. Et ce fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. Il apporte aussi la guérison à nos blessures, la guérison dans nos relations. Quand on réalise que Dieu nous a pardonnés dans sa grâce, nous sommes plus prêts à pardonner aux autres. Alors que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous, nous sommes prêts aussi à manifester de la miséricorde et de l'amour aux autres, à offrir nos vies pour le service de Dieu. Quand le Dieu de la vie qui habite au milieu de nous, quand l'Évangile, ce fleuve rend l'Église heureuse, elle rend l'Église, l'Évangile rend l'Église forte et l'Église peut se connaître et jouir des bénédictions que Dieu accorde dans sa grâce. Et troisième point, le but et la tâche de l'Église, c'est la troisième strophe de ce psaume qui parle de ce but de l'Église, la manière dont l'Église peut atteindre son but. Le psalmiste réfléchit au sujet de la grande victoire que Dieu a remportée contre les puissances ennemies les plus fortes et il commente sur la facilité éclatante avec laquelle Dieu a remporté la victoire. Dans quel but ? Dieu dit au verset 11, « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et ici, dans la révélation de la gloire de Dieu, on voit le but pour lequel l'Église existe, le but final pour lequel l'Évangile a été envoyé. Le psaume 46 parle de deux manières dont l'Église glorifie Dieu dans ce monde. La première, c'est par son témoignage. Versets 9 à 10, « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. » Le psalmiste appelle les habitants de la cité à venir regarder par-dessus la muraille pour voir la désolation de l'armée de Sanchérib. Dieu est capable de détruire tout ennemi de son peuple, rien que par la puissance de sa parole. Il dit un mot, et le monde s'ébranle, le monde tremble. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Voilà l'Église, le message de l'Église pour ce monde. Venez contempler ce que Dieu a fait en Christ. C'est ce que l'Église est appelée à faire. Regardez ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a libéré les captifs, il a rendu la vue aux aveugles, il a prêché la bonne nouvelle aux pauvres. Il a éclairé de sa lumière parfaite ce monde de ténèbres. Il a donné son pouvoir à des pécheurs pour qu'ils vivent en nouveauté de vie. Voilà la tâche de l'Église de déclarer ce que Dieu a fait. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a annoncé depuis le début de l'histoire et ce qu'il a fait tout au long de l'histoire et surtout ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et la deuxième manière dont l'Église glorifie Dieu, on le voit au verset 11. Si au verset 9, l'Église parle au monde et dit « Venez, contemplez », au verset 11, c'est Dieu qui parle à l'Église et dit « Arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cela ne veut pas dire que nous devons vivre une vie de contemplation mystique, d'aller se perdre quelque part dans la forêt ou sur une montagne, de devenir passif, inactif. Non. Il s'agit plutôt de se tenir devant Dieu, de ne compter que sur sa puissance. Sachez que je suis Dieu. Nous devons cesser cesser de compter sur notre puissance, sur nos stratégies pour fabriquer le succès. Nous devrions nous arrêter, nous tenir devant Dieu, de réaliser, de prendre conscience qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est lorsque l'Église fait l'œuvre de Dieu à la manière voulue par Dieu, avec patience, en attendant dans la joie la bénédiction qu'il enverra en son temps. C'est là que nous honorons Dieu. C'est là que nous lui apportons la gloire dans ce monde. La façon de s'arrêter devant Dieu est de dépendre de sa parole. Et c'est ce que le psaume 46 nous dit, c'est un appel de rechercher Dieu à travers sa parole. Comment la force de Dieu devient-elle la nôtre ? Par sa parole. Nous lisons ces versets, nous découvrons que nous recevons la force dont il parle. Comment Dieu habite-t-il au milieu de son peuple aujourd'hui ? Avant tout par sa parole qu'il a donnée, à laquelle il veille par le ministère de l'Esprit-Saint qui vient l'appliquer sur nos cœurs. Comment témoignons-nous des grandes œuvres de Dieu à ce monde ? Par la prédication, par le témoignage de la parole. Comment nous arrêter devant Dieu ? Comment nous attendre à lui ? En nous appuyant sur sa parole, en faisant l'œuvre de le Dieu à la manière qu'il a choisie, en nous attendant au Seigneur pour qu'il nous donne la puissance qui lui rendra gloire dans nos vies. J'ai mentionné tout à l'heure le témoignage d'Elisabeth Elliot qui a trouvé la force dans la parole de Dieu pour affronter la mort de ses deux maris. Un commentateur cite l'exemple d'une autre femme, beaucoup plus récent, dont le nom est Lisa Beamer, et dont le mari Todd s'est illustré lors des attaques du 11 septembre 2001. Et il est impliqué en faisant éviter au troisième avion de se crasher sur le Pentagone. L'avion s'est crashé plus loin en forêt. Et elle rend ce témoignage, elle dit ceci: « Je ne vois pas toutes les raisons pour lesquelles Dieu a permis cela, sachant que Dieu aurait pu tout empêcher. Je n'aime pas la vue de son plan depuis mon point de vue, mais je sais qu'il m'aime et qu'il voit le monde du début à la fin. Alors je peux dire que c'est OK. La foi signifie que, quelles que soient les circonstances, nous prenons Dieu à sa parole. Il me dit qu'il m'aime, que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Alors je continue de mettre ma confiance en lui et de lui obéir. » Dieu est un refuge, un appui pour tous ceux qui croient dans sa parole. C'est pourquoi nous trouvons le refuge et la force dans le Seigneur. Quand nous enseignons, quand nous croyons, quand nous témoignons, quand nous obéissons, quand nous dépendons de cette parole qui nous nourrit. Le psaume 46 nous montre notre grand besoin que Dieu soit au milieu de son peuple, qu'il est notre refuge, il est notre force, il est un secours qui ne manque jamais. C'est une réalité que nous devons nous rappeler, pas seulement dans des moments de danger, mais aussi une fois que l'épreuve est passée. Quand le courant est revenu, quand la vie semble normale, quand la vie semble sécurisée. Nous avons besoin de Dieu comme un refuge, comme notre appui. Nous avons besoin de vivre devant lui dans une soumission tranquille, confiante, afin de l'exalter dans ce monde de ténèbres. Martin Luther avait réalisé son besoin de la protection de Dieu. Il avait aussi réalisé que si Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Mais comment être sûr ? Comment être sûr que Dieu est avec nous ? Comment Martin Luther, par exemple, était-il sûr que Dieu était avec lui ? Et la réponse, bien sûr, est dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde pour sauver, pour protéger tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Et Martin Luther, le réformateur, savait que la plus grande tempête est le jugement de Dieu à venir, à la fin de l'histoire. Lorsque cette colère de Dieu sera déversée sans retenue sur tous ceux qui ont péché. C'est quelque chose de terrifiant, et Luther savait que la seule forteresse suffisamment solide pour résister à cette tempête, c'est la croix. La croix où le Seigneur Jésus-Christ est mort pour enlever nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ derrière laquelle nous nous cachons. Elle savait aussi que le Sauveur qu'il avait découvert à la croix est suffisamment puissant pour nous protéger. Et dans son cantique, il écrit ceci. Deuxième strophe, il dit: « Seul, nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre Sauveur, le grand Dieu, le Seigneur. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme. La victoire lui restera. Troisième strophe, quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient tenir. Eux tous, avec leur roi, tomberont devant toi, peuple fidèle. Pour vaincre le rebelle, il suffit d'un mot de la foi. La quatrième strophe, il faudra bien que, malgré tous, subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'ils prennent tout, chrétiens, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Alors la question pour nous, c'est est-ce que nous pouvons dire cela? Est-ce que l'on peut dire qu'on sait que l'on va triompher au travers des pires épreuves dans ce monde, même au travers de la mort? En Christ, nous pouvons. En Christ, nous pouvons dire, comme le psalmiste le dit, que l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Même si la terre se dérobe, même si les montagnes tombent dans le cœur de la mer, nous ne serons pas terrassés, parce que Dieu est notre refuge. Il est notre forteresse. Nous ne serons pas ébranlés, parce que Dieu nous secourt. Il nous secourt en Christ, son propre Fils, notre Sauveur. Et il nous garde jusqu'à la fin. Oui, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est pour nous une haute retraite. Que Dieu nous aide à méditer sur ces réalités, qu'il nous encourage par sa parole et qu'il la bénisse à nos cœurs. Amen.